Ce matin, j'aimerais parler de pouvoir, d'un certain pouvoir, du pouvoir comme la possibilité, la capacité, les moyens de faire quelque chose, de le réaliser, de faire que la chose arrive. Et ce pouvoir dont j'aimerais parler ce matin est en réalité un super pouvoir. Non pas celui d'un super héros de comics, mais celui de Dieu. Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils. Ça, c'était pas prévu. Par contre, il me faudra le diaporama. Oui. Tu l'as ? 2 minutes ? Ok. Alors, de quoi s'agit-il ? De quoi parlons-nous en parlant de ce super pouvoir ? Nous parlons du pouvoir de pardonner les péchés. Le pouvoir de pardonner le péché, de l'absoudre, d'effacer la condamnation éternelle qu'il engendre. Et ce pouvoir, ce super pouvoir, seul Dieu le possède. Le message de ce matin s'inscrit dans la série en cours sur les questions posées par Jésus. Et celle de ce matin que nous allons lire dans son contexte dans quelques instants est la suivante. C'est Jésus qui parle et voilà ce qu'il dit. Il dit « Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Nous allons lire, en espérant que le diaporama arrive, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Ah, je pense que c'est bon. Et nous allons lire les 8 premiers versets, je lis ce matin dans la Bible du Semeur. Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8, merci à la technique. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire, « Lève-toi et marche. » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Avant de réfléchir au sens de la question posée par Jésus dans ce récit, je vous propose de poser différents éléments pour bien comprendre ce qui se passe dans notre passage. C'est donc notre deuxième point, le récit. Et premièrement, j'aimerais noter que notre récit ne se trouve pas seulement dans l'évangile de Matthieu, mais il se trouve aussi dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Et dans ces deux autres évangiles, il y a beaucoup plus de détails que dans le texte de Matthieu. En effet, pour vous donner un exemple, par exemple, dans Marc et dans Luc, Nous avons ce détail, et ça va tout de suite évoquer des choses pour vous, de cette foule nombreuse qui empêche ces personnes qui portent ce paralysé d'approcher de Jésus, et elles sont obligées de passer par le toit, de défaire le toit pour faire descendre le paralysé et arriver jusqu'à Jésus. C'est le même récit, sauf que Matthieu n'ajoute pas ce détail, par exemple. Notons ensuite que nous sommes, dit le texte au verset 1, dans sa ville, c'est-à-dire la ville que Jésus a choisie comme pied-à-terre, comme base arrière. Il s'agit de la ville de Capernaum, c'est Marc qui nous le précise dans son texte. Et à peu près tous les commentateurs s'accordent pour dire que nous sommes vraisemblablement dans la maison de Pierre. Marc formule les choses ainsi, on apprit qu'il était à la maison. On apprit que Jésus était à la maison. Notons ensuite que nous sommes au début du ministère de Jésus. Et les tensions qui apparaissent dans ce texte sont parmi les premières dans le ministère de Jésus. Bien évidemment, vous le savez, elles ne vont cesser de croître à partir de maintenant jusqu'à son arrestation qui, bien sûr, débouchera sur sa mise à mort sur la croix. Notons que si Matthieu parle des scribes, c'est-à-dire des spécialistes de la loi au verset 3, dans l'évangile de Luc, il est précisé qu'il y avait aussi des pharisiens. Jésus se trouve donc à la maison et on lui amène un paralytique couché sur un brancard. Et le texte ici dans Matthieu précise donc, sans entrer dans les détails dans lesquels entrent Marc et Luc, que Jésus voit la foi de ces gens. Jésus voit la foi de ces gens. Alors ces gens, c'est bien évidemment ceux qui portent le brancard et puis le malade lui-même. Si Jésus voit ce qui est visible, il voit aussi ce qui ne l'est pas. Il voit au-delà des apparences. Il voit le cœur. Il voit la foi qui anime celles et ceux qui viennent à lui. Et c'est sur la base de cette foi, moi ça muscle le pouce, hein, mais ça marche, ah voilà. Et c'est sur la base de cette foi qu'il discerne, qu'il dit cette parole surprenante pour moi en tout cas, au verset 2, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Notons ici, premièrement, toute l'empathie de Jésus. Jésus qui désire encourager cet homme, ce malade. « Prends courage, lui dit-il. » Jésus qui est conscient des difficultés qu'il vit et il a quelque chose à lui offrir. Notons encore le caractère très surprenant des paroles de Jésus. Ces hommes sont venus pour que Jésus guérisse cet homme de sa paralysie. Et voilà que Jésus se contente de lui dire « Tes péchés te sont pardonnés ». J'imagine qu'en entendant cela, ils ont été déçus. Ils ne sont pas venus pour cela. Mais alors pourquoi Jésus commence-t-il par pardonner les péchés de cet homme, plutôt que par guérir ce malade ? On peut imaginer, par exemple, que Jésus a discerné chez cet homme la crainte de ne pas être exaucé à cause de ses péchés. C'est une explication possible. En effet, à l'époque, il y avait une croyance très forte qui était qu'il y avait généralement un lien entre la maladie et le péché. On était malade parce qu'on avait commis un certain péché. Et peut-être que notre homme est dans cette crainte-là. Peut-être pensait-il que son péché faisait obstacle à la guérison qu'il vient demander à Jésus. Et donc Jésus aurait cherché à l'apaiser, d'où ses paroles « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Dans certains manuscrits, nous avons le parfait qui est utilisé ici, « Tes péchés ont été pardonnés ». On peut aussi imaginer une autre compréhension des choses où Jésus irait simplement à l'essentiel. L'essentiel étant le salut, la destinée éternelle de chaque homme et de ce paralysé en particulier. Si la santé physique est importante, qui pourrait nier cela? La santé spirituelle l'est en réalité encore plus. Et Jésus le soulignerait en commençant par régler la question du péché et du pardon des péchés. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, même si le texte ne le dit pas explicitement, mais c'est que le pardon que Jésus accorde à cet homme, il l'accorde ou il l'a accordé, si jamais c'est le parfait qu'il fallait retenir, sur la base de la foi de cet homme, qu'il discerne, qu'il a discerné, sur la base du cœur de cet homme, sur la base de sa contrition, de sa repentance. C'est uniquement quand nous confessons nos péchés que Dieu nous les pardonne. Notons ensuite que ce que Jésus fait n'est pas apprécié par tous, et en particulier par les scribes et les pharisiens qui sont présents. Alors, ils ne disent rien, tout se passe dans leur pensée, mais ils n'en pensent pas moins. Et ils considèrent en eux-mêmes, dit le texte, que Jésus a blasphémé. Pourquoi ? Parce que les Écritures sont claires. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Et donc, en affirmant à cet homme que ses péchés sont pardonnés, Jésus se fait clairement l'égal de Dieu. C'est bien d'ailleurs ce que souligne le texte de l'évangile de Marc, où nous lisons ceci, comment c'est dans la pensée des scribes et des pharisiens, comment cet homme ose-t-il parler ainsi ? Il blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Oui, ils ont raison. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Ce qu'ils n'ont bien évidemment pas compris ou qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que Jésus est Dieu. Notons enfin au sujet de cette accusation de blasphème qu'elle n'est certainement pas encore à ce stade de la confrontation entre Jésus et les autorités religieuses de l'époque, elle n'est pas encore empreinte de perversité et de ruse, comme ça sera le cas pour la majeure partie des accusations qui suivront. Ce que je discerne ici, c'est une sorte de légitimité dans leur interrogation, dans la perplexité de ces autorités religieuses, qui jugent que Jésus s'arroge une prérogative divine. C'est donc dans leur cœur, dans leur pensée, que ces hommes condamnent Jésus et ils l'accusent de blasphémer. Mais Jésus connaît leur pensée, dit le texte au verset 4. Il lit en chaque homme comme dans un livre ouvert. Et c'est ainsi que Jésus va les interpeller avec une première question, toujours au verset 4. Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Et puis Jésus va enchaîner avec notre question, la question du jour, et ça nous amène à notre troisième point. Jésus, qui connaît les pensées des scribes et des pharisiens, les interpelle donc en disant « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même ? » Mais il ne s'arrête pas là. Il ajoute une autre question, la question qui nous intéresse. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Jésus compare ici deux choses, le pardon des péchés de cet homme et sa guérison. Et l'allusion à la facilité dans les paroles de Jésus, qu'est-ce qui est le plus facile de dire ? Donc cette allusion à la facilité dans les paroles de Jésus semble indiquer que les pensées des responsables religieux qui l'interpellent ressemblaient à quelque chose comme ça. C'est facile de dire « tes péchés sont pardonnés ». Tout le monde peut dire ça. Le dire ne prouve rien et surtout ne donne aucune garantie du résultat. Voilà peut-être le genre de pensée qui était dans la tête des responsables religieux. Ils pensaient que Jésus venait d'affirmer quelque chose qu'il n'avait pas le pouvoir, pas la capacité de faire. Puisque seul Dieu peut pardonner les péchés. Les paroles, les idées, c'est une chose, c'est facile de dire, etc. Mais les actes, le concret, la réalité, c'est quand même autre chose. Et donc, Jésus poursuit au verset 6, « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Et Jésus guérit ce paralytique. C'est bien. C'est extraordinaire même. C'est un miracle, bien sûr. C'est un miracle. Mais c'est aussi et surtout à ce moment-là, une réponse aux mauvaises pensées des scribes et des pharisiens. « Eh bien, vous saurez, dit Jésus, vous saurez au travers de ce que je vais faire, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Le miracle que Jésus vient d'accomplir, c'est la réponse à leurs mauvaises pensées. C'est la crédibilisation de ces paroles de pardon. C'est la confirmation que le pardon qu'il a accordé à notre homme est réel, qu'il est efficace. En guérissant cet homme, ce qui était bien évidemment impossible aux hommes et que seul Dieu pouvait faire, Jésus démontre qu'il est Dieu et qu'il a donc le pouvoir de pardonner les péchés. La démonstration est brillante, efficace, comme à chaque fois. La comparaison entre le pardon des péchés et la guérison ne sert pas à montrer que l'un est plus facile que l'autre. Ce n'est pas ça dont il est question ici. Mais elle sert à montrer que puisque Jésus a pu guérir, et ça tout le monde peut en juger, il peut aussi pardonner les péchés. Si sa parole a le pouvoir de guérir cet homme, alors sa parole a le pouvoir de pardonner les péchés. Ça, bien sûr, personne ne peut le constater, ça se passe dans le cœur, c'est une réalité intangible. Mais par le miracle, cette réalité intangible devient tangible. Jésus n'est pas un imposteur qui annonce, qui affirme, qui promet ce qu'il ne peut pas tenir. Il est Dieu et il a le pouvoir, le super pouvoir de pardonner les péchés. Notons ici que Jésus parle du Fils de l'homme. C'est une expression qu'il aime beaucoup pour se décrire, pour se désigner. Elle est utilisée par Jésus 82 fois dans les quatre évangiles, donc c'est pour dire s'il aime beaucoup cette expression. C'est une expression qui vient du prophète Daniel et qui souligne en particulier que Jésus est le roi messianique qui a été promis par Daniel et par les prophètes. Et donc s'il est le roi messianique, son origine est divine, sa royauté est éternelle, et son pouvoir est divin. Un pouvoir, dit le texte, dit Jésus, qu'il possède aussi sur la terre. Aussi sur la terre, verset 6. Et Matthieu reprendra cela quand il, à la fin de son évangile, il rapporte ses dernières paroles de Jésus avant qu'il quitte ses disciples, en disant, Jésus qui dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ensuite il envoie ses disciples en mission. Oui, même sur la terre, et il faut comprendre avant le jugement dernier, même sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors maintenant, il faut dire un mot quand même sur le péché. Il faut dire un mot sur le péché. C'est un mot qui est souvent tabou. C'est un mot qui est souvent rejeté. C'est un mot qui est assez souvent banni. Et je constate que c'est le cas même parmi certains chrétiens. On n'aime pas parler du péché. Il y a quelque chose qui nous dérange de parler du péché. En tout cas, c'est un mot qui est généralement mal compris et qui semble appartenir à un autre temps. Et parfois, je constate aussi que ce mot-là devient un véritable obstacle pour celles et ceux qui sont en approche de l'Évangile. Alors, pourquoi est-ce le cas ? Certainement parce que nous sommes pécheurs et que nous n'aimons pas que l'on appuie là où ça fait mal. Donc, ça nous dérange dès qu'on parle de péché. Ça, c'est certainement une partie de l'explication. Et puis, aussi et surtout, parce que le péché fait partie de ces maux, de ces réalités que certaines personnes, parfois maladroites, parfois mal enseignées, parfois mal intentionnées aussi, ont utilisé au fil des siècles pour opprimer, pour manipuler, pour contraindre, pour juger, pour punir, pour condamner les autres. Alors une fois qu'on a dit ça, deux questions. Faut-il pour autant rejeter la réalité que recouvre ce mot « péché » parce qu'il a été mal utilisé parfois ? Et puis suffit-il de décréter, en s'appuyant sur les abus que je viens de mentionner, que le péché n'existe plus pour le faire disparaître ? Est-ce qu'il suffit de décréter cela pour que cette réalité disparaisse ? Il n'échappera pas au lecteur attentif de la Bible que la notion de péché y est omniprésente. Et si je rejette la notion de péché, alors je dois rejeter la Bible. Je dois rejeter la Bible. Si je considère que c'est quelque chose, c'est qu'une invention humaine, alors franchement, je pense qu'on peut mettre la Bible au placard ou même directement au feu, parce que à moins d'amputer la Bible d'une très grande partie de ce qu'elle a à dire, et je dirais même de l'essentiel de ce qu'elle a à dire, de l'essentiel parce que c'est pour nous sauver de notre péché que Jésus est venu donner sa vie, que Dieu a planifié le salut et qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix comme la victime expiatoire pour notre péché. Alors si je ne crois pas au péché, alors je ne peux pas croire au message de la Bible. Et la Bible est formelle. Le péché existe. C'est une réalité dans la vie et dans l'humanité. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous morts, spirituellement parlant, séparés de Dieu à cause de notre péché. Le péché étant bien sûr tout ce qui fait obstacle entre nous et la sainteté de Dieu, tout ce qui transgresse la volonté révélée de Dieu dans sa parole. Nous sommes tous pécheurs, et l'apôtre Paul le dit d'une manière très claire dans son épître aux Romains, quand il dit « car il n'y a pas de distinction, tous ont péché » et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ça, c'est qu'une partie de la réalité. Et il ajoute, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Chers amis, la solution face au péché, à la réalité du péché, n'est pas de le rejeter, n'est pas de faire comme s'il n'existait pas. Vous savez, on lève le tapis et puis on balaye sous le tapis pour le faire disparaître. La solution, ce n'est pas ça, ce n'est pas de faire comme si la réalité du péché n'existait pas, comme si c'était une sorte de maladie honteuse qu'il nous fallait absolument cacher. La solution n'est pas non plus de ressasser à l'infini les abus du passé sur cette question du péché. La solution, la seule solution valable, se trouve dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous délivre de notre péché et qui nous délivre de la condamnation qui est attachée à notre péché. Si nous en remettons à sa grâce, si nous confessons nos péchés, si nous acceptons le sacrifice de Jésus qui est offert à notre foi. Chers amis, une des plus grandes ruses du diable dans ce monde est de faire croire aux hommes que le péché n'existe pas. Que le péché n'existe pas. Ou alors que s'il existe, ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave que ça. Mais mes amis, si ce n'était pas si grave que ça, est-ce que Jésus serait venu donner sa vie en sacrifice si le péché n'existait pas? Si ce n'était pas si grave que ça? Si le péché n'est pas ce qu'affirme la Bible, alors l'Évangile peut être jeté aux orties, parce que le sacrifice de Jésus n'a alors aucune valeur si le péché n'existe pas. Jésus se serait trompé dans l'évaluation de nos besoins. Il se serait trompé dans l'évaluation de la situation humaine. Et il serait venu pour rien. Et il serait mort pour rien si le péché n'existe pas. Et si ce n'est pas si grave que ça. Mais nous croyons que la Bible dit vrai quand elle parle du péché. Et nous constatons, bien évidemment, nos médias n'en parlent pas, mais nous constatons que le plus grand problème de toute l'humanité, c'est le péché. Ce n'est pas la guerre, etc. Ça, c'est que la conséquence du péché. Le plus grand problème, c'est le péché. C'est le péché qui est à la base de tous les autres problèmes de l'humanité. Alors, quelle est la solution? La solution est dans le Christ et dans le Christ seul. Elle est dans la grâce de Dieu qui nous est gratuitement offerte. Elle est dans le pardon que Dieu accorde à quiconque se repent de ses péchés en mettant sa foi dans le sacrifice parfait de Jésus. Il est temps de conclure. Et j'aimerais le faire simplement en rappelant un des points importants de notre passage, à savoir le fait que si Dieu, par Jésus, se soucie de notre bien aujourd'hui, ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, et il le fait, il se soucie surtout et tout d'abord de notre bien éternel. Si Jésus a soigné beaucoup les corps, il l'a fait, il a aussi beaucoup soigné les cœurs. Peut-être même surtout soigner les cœurs. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Et c'est pour cela qu'il commence par dire à notre homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Alors, chers amis, qu'en est-il de notre cœur, de votre cœur? Qu'en est-il de votre bien éternel? Est-ce qu'il est assuré? Si vous deviez mourir là, maintenant, est-ce que vous savez où vous irez pour l'éternité? C'est quand même ça la question la plus importante. Et par la foi en Jésus, c'est ce que la Bible offre à notre foi. Nous pouvons être sûrs, certains, dès maintenant, de notre sort éternel. de notre salut éternel. Un dernier texte où Jésus dit dans Jean 5, verset 24, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle. Et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Quel merveilleux verset! Quelle merveilleuse promesse! Et quelle merveilleuse assurance! Je n'ai pas besoin d'attendre avec crainte et tremblement une hypothétique pesée de mon âme dans l'éternité, au jour du jugement dernier, en espérant que la balance finira par pencher du bon côté. Ah, vous connaissez toutes ces représentations du jugement dernier. Non, je peux savoir dès maintenant si je suis sauvé ou pas, si je suis pardonné ou pas. Comment? Mais simplement en donnant foi aux paroles et à l'œuvre accomplie par Jésus. Jésus qui a le pouvoir sur la terre avant ce jugement dernier, sur la terre de pardonner les péchés, de nous faire passer de la mort à la vie, de nous donner la vie éternelle. Et c'est ainsi que la question du jour, la question de notre passage, nous amène à la question la plus importante qui soit pour chacun de nous, dans la perspective de l'éternité. Est-ce que mes péchés sont pardonnés? C'est la seule question qui compte. Est-ce que mes péchés sont pardonnés? S'ils le sont, alors mon bonheur est éternel. Et je fais partie des plus heureux des hommes. Et il ne faut pas que je l'oublie. Et il ne faut pas que je l'oublie face aux difficultés de la vie. Je fais partie du plus heureux, des plus heureux des hommes, parce que j'ai le bonheur éternel en Jésus-Christ. Si mes péchés ne sont pas pardonnés, alors après le message de ce matin, il me faut être convaincu d'une seule chose, une seule. Jésus est le seul qui puisse pardonner mes péchés et m'assurer un bonheur éternel. Il en a le pouvoir. Il l'a démontré par la guérison de ce paralytique. Une guérison qui dit avec force que Jésus a le pouvoir sur la terre, dans le ciel, de pardonner les péchés et de me sauver pour l'éternité. Amen.